Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ici Radio Diwa. Vous pouvez écouter aussi cette interview en podcast sur le site internet www.rdwa.fr ou alors en direct sur les ondes FM 107.5. Aujourd'hui pour l'interview, nous recevons Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Bonjour.
Et vous venez donc pour une randonnée initiatique sur la géologie.
Donc c'est l'association des Amis des Arts et du Musée de Die qui, comme tous les ans, depuis 5 ans, organise une sortie géologique, une balade géologique d'une journée qui aura lieu le dimanche 24 août de 8h30 à 19h. En fait, le rendez-vous se fait à l'office de tourisme de Die et l'inscription pour cette balade géologique se fait à l'office de tourisme de Die. Donc on peut s'inscrire à l'office de tourisme de Die, soit en y allant, soit par téléphone au 04 75 22 03 03. 04 75 22 03 03. Si vous allez à l'inscription, on vous donne une petite feuille qui vous indique ce qu'il faut apporter. Parce qu'en fait, c'est une balade d'une journée. Donc il y a un pique-nique. Donc il faut prendre le pique-nique. Et c'est une balade qui fait 100 km en voiture et 5 km de marche. C'est une marche, c'est plusieurs petites marches pour accéder au site géologique. C'est une marche qui est facile. Il y a juste un petit endroit où il y a 10 mètres, où il faut grimper un peu, quoi. Mais c'est assez facile. Hein. Donc c'est une balade d'une journée qui a lieu cette année dans le Haut-Diwa. C'est-à-dire qu'on part de Die à 9h et on se dirige vers Lucandua, donc le site géologique du CLAPS. Et ensuite, on va du côté de Valdrome, où il y a aussi des zones d'intérêt géologique. Et après, de Valdrome, on part vers la droite, on monte vers Saint-Dizier-en-Diwa, le col de Rossas, le col du Failly, on redescend sur Establet, Jonchère, Poyol, et on se retrouve à Die. Hein, donc c'est une marche, c'est des petites marches tranquilles, et bon, ça fait à peu près 100 km de voiture. Il y a un pique-nique qui se fera du côté de la commune des Prés, entre Valdrome et Bourrières. Voilà, donc tous les ans, l'association des Amis des Arts organise une balade géologique, c'est la cinquième, cette année, ce qui permet de s'initier facilement à la géologie, parce que moi je suis l'accompagnateur et je donne des schémas, des croquis, des dessins, des sites que l'on voit. Donc quand les gens se promènent avec moi, il y a une vingtaine, une trentaine de personnes, hein. C'est limité à 30-40 pour des questions de parking, de stationnement. Donc il y a une trentaine de personnes, donc je leur fournis la documentation qu'ils emportent. La participation aux frais, elle est de 5 euros simplement, donc là, ça coûte 5 euros. Donc ça permet de s'initier à la géologie du Diwa, qui est peu connue parce qu'en fait il n'y a pas tellement de spécialistes disponibles sur la géologie du Diwa, mais qui est très intéressante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est une raison géographique, c'est que le Diwa est quand même une région érodée, donc on voit très bien les couches géologiques à plusieurs endroits, dans ce qu'on appelle les écharennes, les grandes zones érodées des montagnes, on détaille les couches géologiques. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant, j'ai dit qu'il y en a plusieurs, c'est qu'on a tout de même des couches marines, des sédiments marins, qui vont de moins 170 millions d'années, on est dans des terrains de l'ère secondaire, de la période jurassique, de moins 170 millions d'années du côté de Saint-Romain, jusqu'à moins 80 millions d'années vers la montagne de Belle-Motte. Donc on a des étagements de sédiments marins qui s'empilent les uns sur les autres, et c'est ça qui est intéressant. Et la troisième raison, c'est qu'il y a eu des plissements complexes qui font que le relief est complexe et contrasté, avec des plis de direction est-ouest, d'autres de direction nord-sud. Il y a des cassures, il y a des failles. Voilà, ça c'est une raison aussi.
Et ça c'est dû au déplacement de la croûte terrestre,
ces cassures, hein, ces plis. C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire que l'Afrique pousse l'Europe de manière régulière. Hein, on peut encore avoir des tremblements de terre, des séismes dans le Diois. Le dernier, c'était dans les années 1964. Hein. Légers, heureusement, hein, ils sont faibles. Mais l'Afrique est toujours en train de pousser. Donc les Alpes sont toujours en train de monter. C'est tellement faible qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. On a l'impression que rien ne bouge. Mais quand on voit la manière... Quand on observe la manière dont les couches sont plissées, complètement tordues sur elles-mêmes, rétrospectivement, c'est impressionnant.
Une montagne, c'est en quelque sorte une élévation de deux continents qui se rencontrent.
Voilà.
Vous êtes déjà venu à la radio pour parler de de ce que vous faisiez. Je suppose que vous vous êtes déjà présenté. Qu'est-ce qui vous pousse justement à vous intéresser tant au Diois ?
Je suis un habitué de Radio Diois.
Oui.
Puisque je suis venu plusieurs fois pour raconter des petites histoires extraordinaires, les petites nouvelles. Il y en a une quinzaine que l'on peut écouter sur Radio Diois, hein, avec Internet, on peut les avoir toutes. Donc ça, c'est des petites histoires extraordinaires qui partent du Diois, quelque chose qui se passe dans le Diois, puis après je brode, j'invente. Hein. Donc, et puis je suis venu aussi alors parce que je suis le trésorier de l'association La Truite Diouase. Donc ça m'est arrivé de venir pour parler des écrevisses, pour parler des poissons du Diois. Donc je suis venu là aussi. Et puis également, je suis l'un des organisateurs, alors dans le cadre de l'Association des Amis des Arts, de la grande exposition mycologique de champignons qui a lieu en octobre. D'ailleurs, la prochaine aura lieu le 18 octobre à Die. Comme l'année précédente. Donc ça, c'est une exposition assez importante. Hein. L'année dernière, on avait eu 250 visiteurs.
La salle polyvalente.
Voilà, et c'est la salle polyvalente. C'est parce que le Diois est aussi riche en champignons. Et puis maintenant, d'ailleurs, ils sont en train de pousser. Voilà, donc l'année dernière, on avait ramassé 200 espèces différentes de champignons. Et les gens pouvaient venir pour savoir leur nom, s'ils étaient comestibles ou pas, etc. Donc à plusieurs... Pour plusieurs raisons, je suis venu à Radio Diois.
Êtes-vous natif du Diois vous-même ou alors vous êtes
par ma mère. Ouais.
Par votre mère
est une famille nale de Poyol.
Et donc vous êtes arrivé en quelle période dans le Diois ?
Alors moi, je suis arrivé en 2006, définitivement installé à Die même, en 2006. Et donc comme j'étais de formation, en fait, je suis un ancien professeur de sciences naturelles. Et l'avantage des profs de sciences SVT, c'est qu'ils ont une formation un peu polyvalente. On fait de la botanique, on fait de la géologie, de la physiologie. Donc je peux un peu parler de botanique, de zoologie, de géologie. Donc je m'intéresse bien sûr à la géologie et à la botanique locale. Et j'étais également, je faisais des recherches, alors cette fois-ci au niveau universitaire, sur l'éthologie humaine, c'est-à-dire la science du comportement. L'éthologie humaine, c'est la science du comportement. On travaille sur le comportement des nourrissons et puis le comportement des gens dans les villes. Je suis aussi l'auteur de la carte des ressources halieutiques du Diois. C'est-à-dire, c'est une carte qui donne toutes les rivières du Diois avec leur nom, qui indique les poissons que l'on trouve dans le Diois. Ça, c'est une carte que l'on trouve à l'office de tourisme de Die. On peut se la procurer à l'office de tourisme de Die. Et là, intéressante pour les pêcheurs, bien sûr, il y a quand même aux environs de 800 personnes qui vont à la pêche dans le Diois. Il faut savoir que le Diois est la plus grande zone en surface pour la pêche à la truite du département de la Drôme. Donc il y a des amateurs de pêche qui vont pêcher dans la Drôme. Il y a 8 espèces différentes de poissons dans le Diois.
Cette carte, vous l'avez faite comment ? Vous avez parcouru le terrain sur place ?
Alors la carte des ressources halieutiques, j'ai vraiment, c'est une carte de terrain. C'est-à-dire que j'ai parcouru tout le Diois en indiquant à quel poisson on trouvait dans tel ruisseau, dans telle rivière. Dans la Drôme elle-même, on peut trouver 8 espèces différentes. Hein, vous avez des chevennes, des barbeaux. Et dans les ruisseaux, bon, c'est essentiellement la truite, hein, qui est le poisson noble, etc., de bon goût gastronomique. Mais il y a aussi un poisson mal connu qu'on appelle le chabot. Il y a un barbeau méridional qui est un poisson rare que l'on trouve seulement dans le bassin de la Roanne et dans la Brette. Bon, il y a quelques originalités. Le Diois est aussi riche en castors. Il y a plus de 300 castors dans le Diois. C'est une espèce en extension.
J'en ai aperçu, voilà. Même à Die. Hein,
même à Die, dans la Drôme, à Die, on peut observer le soir, tard.
La nuit, on peut les voir aussi dans l'eau.
On peut les voir en train de construire leur barrage et de travailler. C'est des travailleurs infatigables, les castors. Il y a des hérons, il y a des couleuvres vipérines. Qu'il ne faut pas tuer, bien qu'elles ressemblent aux vipères, mais sont complètement inoffensives. En général, quand on se promène dans les cours d'eau, on trouve des couleuvres vipérines. Pour la géologie, il y a des gens qui s'y intéressent pour plusieurs raisons. La géologie, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que quand vous êtes au sommet d'une montagne, vous marchez sur le fond de la mer. C'est le monde complètement inversé. Donc l'intérêt de la géologie, c'est que ça vous donne un aperçu et une vision inverse de ce que vous voyez. Hein, vous voyez le fond de la mer. Dans les marnes de Saint-Dizier, on a trouvé, il y a une vingtaine d'années, un ichthyosaure de 4 mètres de long. Hein, on trouve des fossiles d'ammonites qui sont des petits mollusques céphalopodes. Voilà. Alors, c'est ça le côté intéressant. Alors, bien entendu, la géologie, comme elle a une influence sur la nature des sols, elle a aussi un intérêt au niveau agricole. Un terrain calcaire n'a pas tout à fait les mêmes qualités au niveau agriculture d'un terrain marneux. Les cailloutis, parfois, malheureusement, alors là, cette fois-ci, peuvent être gênants. Hein, l'ancien lit de la Drôme, c'est des champs de cailloux que les agriculteurs sont obligés d'enlever et puis de poser sur les côtés. Bon, il y a tout un tas de... Elle a un intérêt au niveau botanique. Bien entendu, on n'a pas tout à fait les mêmes plantes sur des terrains marneux que sur des terrains calcaires. Donc, ça introduit une diversité. Au niveau sportif, ça a un intérêt aussi. Les falaises du Titonique que l'on trouve... partout dans le Diois, au niveau des moyennes montagnes, sont des lieux d'escalade. Parce que c'est un calcaire qui est solide, qui est franc, où on peut faire de l'escalade. L'escalade reste toujours un sport dangereux, mais au moins, c'est du calcaire stable. Tandis que le calcaire des Trois-Becs, qui est du Turonien, à un autre étage, il est plus dangereux, parce qu'il se désagrège plus facilement. Donc là aussi, ça a un intérêt. Donc les connaissances géologiques apportent beaucoup dans plusieurs domaines.
Ces couches, ces strates qui sont issues de périodes extrêmement longues, qu'est-ce qui peut déterminer justement leurs différences minérales ? Par le biais de quoi justement on peut trouver de la marne ? Et pourtant, toutes les substances sont certainement identiques au fur et à mesure du temps. Et pourtant, il y a des différences de strates.
Oui. Dans le Diois, on n'a pas de terrain volcanique. Hein. On n'a pas de granit, on n'a pas de terrain volcanique. Mais on a des calcaires et des marnes qui alternent sur une période qui fait environ 100 millions d'années de sédimentation marine. Donc, on démarre par des terrains les plus anciens qui sont du côté de Saint-Romand, qui sont dans les moins 170 millions d'années, et on peut se terminer par des terrains marins, toujours, qui sont vers la montagne de Belmotte, qui sont dans les moins 80 millions d'années. Donc tous ces sédiments se sont accumulés avec soit des calcaires, soit des marnes, dont l'épaisseur varie d'une période à une autre. Au niveau des falaises calcaires, en général, on a 3 falaises calcaires. On a celle qui est la plus en bas, donc la plus ancienne, on appelle ça le Roracien. On la voit bien à l'embranchement de la route de Valdrome et de Bourrières. C'est une falaise calcaire qui est la plus basse. Et puis, le sommet des moyennes montagnes, comme Justin, ça, c'est la falaise Titonique, qui est dans les... c'est la dernière période du Jurassique. Et quand on monte, bah, on trouve les grandes falaises du Glandas, qui font partie d'un étage géologique qu'on appelle le Barémien, qui sont dans les moins 100 millions d'années. Ça, c'est la dernière c'est la falaise du Glandas, le Barémien. Et par contre, assez curieusement, les trois becs, qui sont moins hauts que le Glandas, correspondent à une falaise calcaire encore plus récente, qu'on appelle le Turonien. Donc il y a trois grandes falaises calcaires, barrières calcaires, dans le Diwa. Et entre ces falaises, il y a des marnes qui sont riches en argile, alors que le calcaire, c'est que du calcaire. Les marnes, c'est un mélange d'argile et de calcaire. Et les marnes, elles, sont variées aussi, surtout au niveau de leur épaisseur, parce que ça varie selon les étages, et surtout de leur couleur, ce qui fait la variété du Diwa. Les marnes noires que l'on trouve en bas, à Di, hein, sont de l'étage oxfordien, c'est les plus anciennes, dans les moins 150-160 millions d'années. Ça, c'est les marnes noires. Et quand on monte, quand on passe, par exemple, vers Valcroissant, on trouve les marnes blanches, celles où on trouve le plus facilement des fossiles. Ça, c'est les marnes blanches du Valangilien. Elles sont blanches, donc ça change la couleur du paysage. Et quand on monte encore plus haut, vers Saint-Dizier-en-Diwa, vers le col de la Chaudière, on trouve des marnes gris-bleues, qui sont plus récentes, puisqu'elles sont plus en hauteur. Et ça, c'est aussi une variété de paysages qui est assez étonnante. Donc, il y a ce côté variété du Diwa. La variété du Diwa, elle est fondamentalement au niveau géologique, puisque cette variété géologique, elle va introduire une variété botanique. Et la variété botanique introduit une variété au niveau de la faune, et ces variétés au niveau de la flore et de la faune vont bien sûr avoir des conséquences au niveau agricole. Donc la variété agricole du Diwa, parce que le Diwa est plutôt une région de polyculture, bien que la vigne soit importante, hein, mais c'est quand même une région de polyculture. Si on veut comprendre la polyculture du Diwa, on la comprend en partie par la variété géologique.
Lors de vos randonnées, est-ce que vous êtes amené aussi à faire de l'archéologie, de l'ethnologie ? Est-ce que vous tombez sur des vestiges d'anciens villages par hasard ? Qui ont disparu ou qui ont laissé quelques traces ?
Oui, oui, on peut... Bon, la balade est surtout axée géologie, mais bien entendu, comme je connais un petit peu la botanique, quand je passe dans des endroits où il y a une caractéristique, bon, je le dis. Alors, par exemple, l'avant-dernière randonnée, du côté de Saint-Romand, il y avait des barrages de castors. Donc j'ai montré aux personnes qui m'accompagnaient les barrages des castors. Une autre balade, il y a des cimetières familiaux. Ces petits cimetières familiaux sont d'origine protestante, liés à la révocation de l'édidente par Louis XIV en 1685. Il y en a plus de 700 dans le département de la Drôme, des cimetières familiaux. Plus de 700. Dans le Diwa, il y en a plus de 300. Donc, quelquefois, les personnes, les Diwa connaissent bien, mais d'autres personnes ignorent complètement l'histoire des cimetières familiaux. Donc, je peux donner l'explication. Quant au village abandonné...
Il me semble qu'il n'en existait...
Complètement abandonné, il y en a, à ma connaissance, il y en a qu'un. C'est vers Trestu-Créillé, où là, il y a un village qui est intégralement abandonné, totalement ruiné. Il y a des villages qui ont été limite abandon, mais qui ensuite ne le sont plus, bon, sur les hauteurs. Donc, il y a des vestiges archéologiques. Il y a aussi, bon, il y a eu une période romaine hein, dans le Diwa. Les Romains ont créé une route, donc qui va de Valence et qui monte vers Gap. Et par exemple, les bases de l'ancien pont romain qui franchit le Bèze, elles sont du côté de Saint-Romand. Il y a 3-4 ans, le Bèze avait creusé son lit de telle manière qu'il a fait réapparaître les bases du pont romain. Ensuite, il y a eu une nouvelle crue, et maintenant, on ne les voit plus. Mais on les a étudiés au moment où ils étaient dégagés. Donc voilà, il y a des curiosités comme ça au niveau archéologique. Il y a bien sûr toute une, au moins une dizaine d'anciens donjons ruinés comme celui de Pontet. Il y a ça aussi.
Pontet, c'est un curieux village où il y a le bas village et au-dessus, il n'y a que des ruines sur cette petite colline.
Voilà. C'est-à-dire que souvent, au Moyen-Âge, les villages étaient au pied des donjons, au pied des tours moyenneuses pour des questions de sécurité. Et quand la sécurité est revenue d'une manière définitive avec la construction de l'État français, les villages sont descendus. C'est vrai de Minglon, c'est vrai de Poyol. Poyol, l'ancien nom de Poyol, c'était Podiolis, c'est-à-dire lieu élevé. Donc le village était en hauteur sur la montagne, près d'une tour. Et il est descendu au XVIe siècle en bas. On a ce phénomène assez général, d'ailleurs dans le département de la Drôme et même au niveau national, avec la sécurité retrouvée, les villages qui descendent dans les vallées.
On va revenir à ces randonnées donc, initiatiques sur la géologie. Ça s'adresse à qui, justement, ce genre de randonnée?
C'est ouvert vraiment à tout le monde, hein. Je dirais que la géologie...
Ma question est de savoir s'il faut avoir un léger rudiment de la géologie
Pas du tout. Moi, je donne tous les documents, j'explique. Il n'y a aucun... vraiment, si on ne connaît absolument rien en géologie, personne ne connaît rien parce qu'en général, quand même, on a quelques vagues souvenirs de la classe de 4e. Mais non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a quand même une marche de 5 km, hein, dont une montée qui doit faire 1 km. Parce que quand on est du côté de Saint-Dizier, au col du Failly, on monte pour observer un paysage extrêmement sauvage qui correspond aux gorges de l'Archette. Donc il faut monter sur à peu près, même pas 1 km, 800 mètres, mais sur un chemin large. Hein. Et puis quand on va aussi vers une cascade qui est très peu connue, la cascade de Putaval du côté de Valdrome, bon, il y a un petit passage où ça grimpe assez fortement sur 50 mètres. Bon, donc il faut des chaussures de randonnée, il faut un imperméable, parce que le temps, on ne peut pas le prévoir, et puis le pique-nique, voilà. Donc les dernières, puisque c'est la cinquième, il y a des personnes qui allaient de 10 ans à 85 ans. Hein. Et puis de toute façon, si le seul endroit où c'est un petit peu plus difficile, la personne n'est pas obligée de le faire. Elle peut très bien rester dans la voiture et puis elle reprend le circuit. Donc ça, c'est tout à fait possible.
Il existe d'autres personnes que vous dans cette association qui s'intéressent dans ce domaine ?
Il y a dans l'association, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à la géologie. Mais c'est vrai que les personnes qui peuvent parler de géologie sont pas très nombreuses, parce que c'est quand même une spécialité. Bon, une personne qui veut s'intéresser à la géologie, il y a quelque chose qui est incontournable. Il faut acheter la carte géologique. La carte géologique, elles sont disponibles à la librairie Mosaïque à Die. On commence par en acheter qu'une, hein, parce que c'est quand même assez cher, on en achète qu'une. Et on l'étudie, et à partir de là, vraiment, c'est une source considérable d'informations. La carte, on ne peut pas s'en passer si on veut vraiment étudier la géologie. Pour trouver les fossiles, il faut la carte géologique. Pour comprendre l'épissement, il faut la carte géologique, parce qu'il y a un fascicule en même temps qui explique tout. Pour faire des coupes géologiques qui vous permettent de savoir non seulement les terrains qui sont en surface, mais même ceux qui sont en profondeur, invisibles, c'est à partir de la carte géologique. La carte géologique, son fond, c'est la carte d'état-major. Ça vous donne aussi d'autres renseignements. Non, c'est indispensable.
J'avais une autre question, c'était par rapport au cours d'eau, justement. Vous avez certainement parcouru en long et en large tout le secteur du Diois. Est-ce que vous avez fabriquer une carte vraiment exhaustive des cours d'eau ou alors il y a des ramifications
des rues. Ça, c'est la carte des ressources halieutiques.
C'est-à-dire par rapport aux poissons.
Par rapport aux poissons. Mais cette carte, elle donne le nom des cours d'eau.
Parce uniquement.
Que tout, même les petits ruisseaux. Les petits ruisseaux, il y a le...
Parce que ces ruisseaux, est-ce qu'ils sont mentionnés sur les cartes d'état-major ou les cartes touristiques, justement?
Pas toujours, pas tous. Et donc, ils sont tous tracés, mais quelquefois, ils n'ont pas de nom. Donc, des fois, on leur donne le nom de la ferme qui est la plus proche. Ils n'ont pas toujours... La Drôme, ça vient de Droma, en latin, qui veut dire « qui court ». Et en effet, ça court bien la Drôme.
Et voilà, mais je trouve ça fascinant, ce côté d'aller rechercher vraiment la source de la Drôme même. D'ailleurs, elle se situe à Val-Drôme.
À Val-Drôme, oui.
On peut donner vos coordonnées aussi, si des personnes sont intéressées pour...
Pour la balade géologique, il faut vraiment aller à l'office de tourisme de Die.
Uniquement.
Ou s'inscrire par téléphone au 04 75 22 03 03. Et c'est donc le dimanche 24 août, à partir de 8h. Le rendez-vous, c'est à 8h30 devant l'office de tourisme. Le rendez-vous est au parking Meyros devant l'office de tourisme à 8h30. Et le départ se fait à 9h. Donc ça fait 100 km de voiture, covoiturage possible. Et retour vers 19h, 20h à 10h.
Un site internet ou un blog de l'Association des Amis des Arts et du Musée ?
Non, là, j'ai pas le site internet. C'est l'Association des Amis des Arts. Vous faites l'Association des Amis des Arts et ça vous donne, vous entrez sur le site internet. C'est comme pour Radio Diwa. Association des Amis des Arts et du Musée de Die. Le nom complet, c'est Association des Arts et du Musée de Die. Donc, cette association, elle organise des conférences, elle organise des concerts, la grande exposition mycologique d'octobre, et puis cette petite balade géologique une fois par an.
Vous êtes ici depuis 2006, vous le disiez, définitivement. Donc, je suppose que vous étiez déjà passé avant dans la Drôme, et y êtes passé quelque temps aussi.
Oui.
Et je voulais savoir, est-ce que vous avez constaté une évolution de ce qui se passait dans la vallée de la Drôme au niveau de la culture, de l'écologie et des démarches qui sont faites là, dans ce domaine?
Au niveau de l'agriculture, on voit bien sûr... ça reste une terre de polyculture, le Diwa, mais on voit bien sûr tout de même un développement de la vigne, la clairette de Die, et un développement des chênes truffiers. Je dirais que les deux, ça concerne les champignons d'ailleurs, les chênes truffiers. Je dirais que c'est les deux cultures qui sont en expansion avec le maintien de la lavande et peut-être une diversification un petit peu au niveau des plantes, au niveau des huiles essentielles. Il y a aussi un développement au niveau des huiles essentielles. Au niveau des plantes médicinales, ça c'est un secteur en expansion. Donc il y a plutôt, le Diwa, il y a quelques champs de maïs, mais peu, parce que le maïs demande trop d'eau. Donc ça c'est réduit, le blé se maintient. Mais le développement au niveau agricole, c'est, et bien sûr, il y a l'élevage avec l'agneau du Diwa, qui est très apprécié. Il y a un maintien de l'élevage ovin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se maintient. Au niveau du tourisme, bien entendu, les camps de camping se sont installés dans les années 60-70. Le tourisme du camping se développe. Il y a une forte densité de camps de camping, dont certains sont très bien aménagés, dans le Diwa. Donc ça, c'est un secteur en expansion.
Et je voulais aussi revenir sur ces rivières dues à l'affluence estivale de tous les étés. On y retrouve les sempiternels barrages dressés par des amateurs de construction. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, alors ces barrages construits pour s'amuser par les adultes quand ils se baignent sont extrêmement défavorables pour la faune aquatique, en particulier pour les poissons, parce que tout simplement, ils provoquent un réchauffement de l'eau. Donc en premier, sont les truites qui sont victimes, qui ne supportent pas une eau de 25 degrés. Et ça détruit aussi les larves aquatiques, parce que quand vous entassez vos cailloux, vous tuez des larves aquatiques. Donc c'est extrêmement nocif au niveau de la biodiversité en ce qui concerne les poissons et en ce qui concerne les insectes. Donc il faut éviter de construire ces grands barrages. Ça peut être aussi gênant quelquefois sur la Drôme pour les canoës. Pour les canoës, il est recommandé aux canoës de laisser un petit temps tranquille aux pêcheurs, donc de ne commencer à descendre la Drôme qu'à partir de 10h du matin. Donc ces barrages, il faut éviter. Les petits trucs pour les enfants, il n'y a aucun problème. Mais ces grands barrages qui des fois font 10 mètres de long, et comme j'en ai vu dans la Roanne, et 1 mètre de hauteur, c'est catastrophique. La Roanne était une belle rivière à truites, ce n'est plus une rivière à truites. Il faudrait éviter ce genre de construction et se contenter de se baigner. C'est désagréable.
Merci Jean-Claude Rouchouze.
Merci.
Interview.
Au revoir.